Résiste
Web Radio. Mardi 12 septembre, 18h-20h, Transistor fait sa rentrée.
Bonsoir et bienvenue pour le direct de rentrée de Transistor de 18h à 20h, 2h d'émission pour vous présenter la web radio de l'ENS de Lyon. Et j'en profite pour vous rappeler que Transistor fait sa grande réunion de rentrée le mercredi 20 à 20h. Et tout de suite, on embraye avec une heure d'actu avec le En ce moment.
Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur sur Transistor.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Pour commencer ce en ce moment, un flash info qui nous est présenté par Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathias. Entre 24 et 60 000 manifestants aujourd'hui à Paris, 66 350 et 198 000 sur toute la France. Bien sûr, aujourd'hui, l'actualité est prise par les manifestations et les mouvements de grève sur toute la France contre la réforme du droit du travail. À ces manifestations participent la CGT, la FSU, Solidaire ainsi que l'UNEF et France Insoumise. Mais la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC n'ont pas émis d'appel à manifester de leur côté, ni même que force ouvrière. Macron est à Saint-Martin aujourd'hui pour rendre visite aux sinistrés de l'ouragan Irma qui a frappé l'île il y a une semaine. 95% de destruction sur toute l'île et une dizaine de morts sont à déplorer. Lorsque la Catalogne fêtait sa fête nationale lundi dernier, aujourd'hui le gouvernement irakien, l'Assemblée irakienne, venait de voter une loi refusant de reconnaître le résultat du référendum d'autodétermination du Kurdistan irakien qui aura lieu d'ici la fin du mois. L'ONU a voté deux nouvelles sanctions contre la Corée du Nord à l'unanimité du Conseil de sécurité. Les États-Unis ont réussi à mettre de leur côté le vote de la Chine ainsi que de la Russie en réduisant quelque peu la teneur et l'ampleur de leurs sanctions. C'est annoncé, la procréation médicalement assistée sera peut-être pour tous d'ici 2018. C'est ce qu'a annoncé la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Madame Schiappa. Toujours en Europe cette fois-ci, l'ex-président géorgien, Monsieur Mikhail Saakashvili, entre en Ukraine malgré son absence de passeport et ses dissensions assez fortes avec le président Porochenko. En Russie, le parti de Poutine, Russie Unie, a été défait aux élections locales à Moscou, y compris dans la circonscription où Monsieur Vladimir Poutine lui-même votait.
Et merci Pierre pour ce rappel des titres. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que Tous Politiques fait sa rentrée en même temps que Transistor avec une nouvelle émission rafraîchie puisqu'il ne s'agit plus de couvrir l'élection présidentielle mais la vie politique sous le quinquennat Macron. Et c'est tout de suite pour Tous Politiques.
Il est 20h, voici le nouveau président de la République, et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête.
Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est Emmanuel Macron qui a été élu président de la République.
Tu changes le générique sans nous prévenir, toi.
Et oui, puisque...
C'est une honte. Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre, Mathias.
Nouvelle saison, nouveau générique, puisqu'il ne s'agit plus d'être président, enfin de vouloir être président, mais d'être président. Et donc on a ici donc un Tous Politiques en effectif réduit, puisqu'il nous manque notre chère Maëlys, partie dans le Septentrion. Et pour commencer, je laisse tout de suite la parole à Marie, qui fait son grand retour dans Tous Politiques. Bonsoir Marie.
Bonsoir Mathias. Alors parmi nos auditeurs et auditrices aujourd'hui, il y en a sans doute qui viennent d'emménager dans notre grande région, Auvergne-Rhône-Alpes. Félicitations à tous et à toutes, vous venez de rejoindre la région présidée par Laurent Wauquiez. Car c'est bien de Tonton Laurent que je veux vous parler ce soir. Wauquiez, c'est un peu votre oncle de droite, blanc, raciste, riche et frimeur avec ça. blablabla, j'ai sauvé la droite, vraiment de droite, blabla, je suis le rassembleur, fédérateur, blablabla, j'apporte un nouvel espoir, mais oui, moi je garde la forme, est-ce que je t'ai raconté ma dernière ascension du Mont Mézenc, etc., etc., pendant des heures. Cette année, tonton Wauquiez a eu 42 ans. Autrement dit, ça fait un petit moment qu'il traîne ses très 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 longues dents sur les parquets bien propres et bien cirés de l'UMP. En 2004, Wauquiez est député et sarkozyste. Il se teint les cheveux en gris à 29 piges pour paraître plus chevronné dans la masse d'ambitieux qui gravitent autour de Sarko. Il publie un bouquin sur lui-même et sur sa toute petite carrière, un huron à l'Assemblée nationale. Oh là là, moi, jeune riche, sorti de prépa parisienne, de l'ENS d'Ulm, de Sciences Po, de l'ENA, mais je suis mais tellement l'outsider, je suis tellement original par rapport à tous les autres. Oh mais oui, mais je me kiffe. En 2007, il est porte-parole du gouvernement. Autrefois, Laurent a été de droite modérée, plutôt branché démocratie chrétienne, gaullisme et droite sociale. Mais tout ça, c'était avant 2011. Et ça se rapproche de Patrick Buisson, le conseiller d'extrême droite. Et puis la cistana, c'est le cancer de la société française. Et les étrangers doivent s'adapter à la République. Et puis il y en a marre de l'Europe, il y en a marre de Bruxelles, marre de l'immigration. Et oui, je suis proche des veilleurs et de sens commun, je suis contre le mariage gay. Bref, Wauquiez se change en parfait petit chevalier identitaire et anti-européen. Manifestement, avoir vaguement fait un mémoire de maîtrise sur l'orientalisme au siècle des Lumières lui donne le droit de gloser sur les racines chrétiennes de l'Europe et l'islamisation inéluctable de la France. Ça lui donne aussi le droit de publier en 2014 « La Haute-Loire de ses origines à nos jours » aux éditions Jeanne d'Arc. Il y a des choses qui ne s'inventent pas. Tonton Wauquiez, il n'aime pas les pauvres, n'aime pas les immigrés ni les musulmans. Il aime la droite, il l'aime régalienne et bien bien dure. Même Marion Maréchal Le Pen trouve qu'ils auraient des choses à se dire et à faire ensemble. Il aime se la jouer classe moyenne chic. Mon chéri, cette semaine, le thème des républicains du shopping est séduisant pour l'électorat du Puy-en-Velay. Moi, c'est qui j'ai tes conseils, c'est la petite parka rouge, c'est un intemporel, c'est très tendance en ce moment. Et pour la mise en beauté, le petit accent de la Haute-Loire, pour ça tu vas voir un coach professionnel, hein. Tu fais pas n'importe quoi, sinon on va voir que t'es lyonnais chérie. Avec ça, tu vas être sublime. Alors voilà, depuis quelques jours, tonton Wauquiez se verrait bien en haut de l'affiche, et notamment à la tête du parti Les Républicains. Plus de Fillon, plus de Juppé, plus de Sarko, pas de Bertrand ni de Pécresse, et notre arriviste roule à tombeau ouvert sur l'autoroute du pouvoir et de l'opportunisme. On parle déjà de l'embranchement 2022 sur l'autoroute présidentielle. Alors, nous n'en sommes pas encore là, attendons déjà le résultat de l'élection en décembre. Attendons surtout de voir l'automne pourri que risque de passer Wauquiez, qui reste quand même l'homme le plus détesté par tous les cadres de son parti. Même Copé l'a dit dans les colonnes de Marianne. Et pourtant, Copé, hein, on sait à quel point il est lui-même très très aimé et très très soutenu dans sa famille politique. Monsieur 0,3% aux dernières primaires de la droite.
0,3%
0,3, pardon Mathias. Mais revenons-en à nos moutons conservateurs et à tonton Wauquiez. D'après un sondage Elabe la semaine dernière, bonne nouvelle, seulement 9% des Français voient les Républicains comme la force d'opposition face à la majorité présidentielle. Alors Wauquiez, avoir l'amour des militants du parti, c'est une chose. Séduire durablement la base de l'électorat de droite, c'en est une autre. Et si pour ça il faut tenir des propos flirtants avec l'extrême droite parce que bon, il faut bien être à droite et on a l'habitude depuis Sarkozy, croyez bien que Wauquiez, il va le faire. Croyez bien qu'on n'a pas fini de l'entendre débiter ses conneries classistes et racistes sur le plateau de TF1 et dans toutes les matinales de France et de Navarre. Bref, chers auditeurs et auditrices, préparez-vous pour la rentrée des droites et son cortège puant. Wauquiez n'est jamais qu'un loup, et un loup, ça marque son territoire avec ses excréments. J'ai été un peu trop cerda sur cette conclusion. Je vous demande de m'excuser, je sais pas ce qui m'a pris.
T'inquiète, on y vient, on y vient.
Merci Marie pour cette belle lettre d'amour à Laurent Wauquiez, qui je l'espère t'écoutera attentivement. Et donc une autre personne fait sa rentrée aussi à Transistor, et il s'agit de Pierre, qui nous a aussi préparé son édito. Rebonsoir Pierre.
Rebonsoir Mathias. Alors moi c'est très simple, hein, je vais vous parler du changement en politique. Vous savez ce truc là qui devait arriver
maintenant
ouais, en 2012. Le changement c'est pas quelque chose de forcément intrinsèque à la politique, hein, comme on a pu le constater. Si on peut clamer vouloir changer les choses, si on fait des élections pour avoir la possibilité de toujours changer, on aime les systèmes politiques qui marchent bien et qui durent longtemps. Si Mélenchon veut à tout prix remplacer la 5ème République par la 6ème, c'est pas pour mettre en place une République qui change au bout de 5 ans. Et que dire des petits vieux qui se plaignent et qui nous bassinent de leur « c'était mieux avant ». On n'a pas envie que ça ait changé, du coup on a envie que ça change pour que ça redevienne comme si ça n'avait pas changé. Le changement, en France, c'est un peu comme le mec surmusclé de la gym du quartier. À force de le regarder, de voir les autres l'avoir, on le veut. Mais une fois qu'on l'a, on se rend compte qu'on n'est pas du tout compatible, tant sur le plan astral que sexuel. Alors bien sûr, le changement en politique n'est pas aussi catégorique que les coucheries de machine à café. Il y a plusieurs moyens de l'aborder, de l'appréhender. Deux écoles de pensée se sont souvent fait la guéguerre en politique pendant que les conservateurs faisaient leur petite tambouille de leur côté. Il est toujours plus simple de maintenir les lois comme elles sont plutôt que d'en écrire de nouvelles. D'un côté, les réformistes. Ce sont un peu les timides, ou ceux qui veulent une relation de long terme. Ils s'approchent petit à petit de leurs potentiels partenaires pour ne pas les brusquer et pour leur montrer graduellement à quel point ils sont nécessaires. Les réformistes, comme leur nom l'indique, veulent constituer leur changement sur des réformes. Et l'Académie française définit le terme « réforme » dans un registre politique comme étant tout simplement un changement. Toutefois, la définition plus générale est « un rétablissement dans l'ordre, dans l'ancienne forme ou dans une meilleure forme ». Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une réforme s'effectue en direction de quelque chose d'ancien ou de meilleur. C'est-à-dire qu'on met dans la définition une notion éminemment positive, ou du moins rassurante. On ne saute pas dans l'inconnu le plus total, mais aussi, il est important de noter que c'est un changement qui se fait dans l'ordre. Non pas dans l'ordre style 1, 2, 3, etc., mais dans l'ordre établi, dans le respect de l'ensemble des lois déjà existantes, en somme. Et du coup, le réformiste, c'est le bon élève, non content du système de notation de son prof, qui négocie avec le prof pour modifier un peu plus à chaque contrôle le système de notation. De l'autre côté, le révolutionnaire, c'est le bon élève non content du système de notation du prof qui ne vient pas en cours sauf pour se lever sur une chaise et pousser les autres élèves à menacer le prof de changer immédiatement le système. Le révolutionnaire, c'est celui qui refuse l'ordre, justement, et qui estime que l'ordre actuel est ce qui cause le problème. Pour changer, il faut le faire d'un coup, une bonne fois pour toutes, foutre un grand coup de pied dans la fourmilière, mettre des têtes en haut des pics, sortir les fourches et les torches, bref, user de la violence, soit-elle politique, physique ou même morale, pour changer totalement le système d'un coup. Une révolution prend la rue, un réformiste prend les urnes, en gros. C'est pour ça qu'ils se sont souvent opposés, tout au long de l'histoire, les uns traitant les autres de socio-traîtres et les autres traitant les uns de terroristes. Bien que souvent dans l'histoire politique, ils aient œuvré dans le même but. On place d'ailleurs ces deux courants à gauche, puisque la droite est souvent caractérisée par le conservatisme. Encore une fois, les noms sont très bien choisis, c'est-à-dire ceux qui veulent conserver l'ordre établi. Et je trouve que c'est assez rigolo qu'on puisse vraiment distinguer les pays eux-mêmes selon leur tradition politique. Ma copine allemande me disait l'autre jour « J'ai l'impression qu'en France, tout doit changer d'un coup. Vous voulez toujours la révolution, vous savez pas faire des réformes. » Le constat est dur, surtout quand c'était en pleine période électorale. Bon, vous me direz, qu'est-ce qu'elle vient nous faire la morale alors que l'Allemagne aussi passe en période électorale ? Eh bien, c'est bien vrai, vous réponds-je alors. C'est bien vrai. Et en Allemagne, le problème est totalement inverse. À tel point que les Allemands s'en foutent un peu de l'élection puisqu'ils savent que Merkel gagnera et continuera sa non-politique. Sa politique de grande coalition, aussi appelée GroKo, réunissant presque tout le Bundestag. Il n'existe quasiment pas d'opposition politique à Merkel sauf les partis extrêmes, qui montent du coup graduellement. Tout ça pour leur amour de la réforme, justement, du maintien d'une politique faible, mais tout le temps stable. Merkel va reprendre pour 4 ans à la tête de l'Allemagne après pas moins de 12 ans au pouvoir. Et qui, ici, peut résumer sa politique ? À part bien sûr sa politique d'asile et sa politique du nucléaire, qui est vivement critiquée par les Allemands eux-mêmes. De l'autre côté du Rhin, d'une autre du coup, ce n'est pas du tout le même délire. Revenons aux mots de ma dulcinée. Les Français préfèrent la révolution à la réforme. Ça ne vous rappelle personne ? En Roumanie ? Non ? En effet, d'accord, une actualité. Hein. Notre président a annoncé à l'autre bout de l'Union « La France n'est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé et n'y ont pas réussi car les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on le fait. » Et quand on y pense un peu, c'est pas totalement faux. Même si cela lui a valu d'être élire de l'intégralité de la caste politique de gauche. Mélenchon critique Macron en lui assénant qu'il a dû aller à l'autre bout de l'Europe pour se permettre de critiquer les Français. Mais que veut-il ce Mélenchon d'ailleurs ? Une révolution, non ? À moins qu'il se prône de la gauche réformiste. Vous savez, celle qui était pendant 5 ans au gouvernement et qui nous avait promis que le changement était maintenant, à coup de réformes revues, réduites ou tout simplement repoussées. Et l'histoire tend plutôt à montrer que l'étoile de minuit n'a pas forcément tort. Et non, je ne parle pas de Macron, mais bien de ma copine. Si les Allemands aiment avoir un gouvernement qui ne fait pas grand-chose mais qui ne change pas pendant 16 ans, la France a le record du plus grand nombre de révolutions. 1789, 1830, 1848, 1870, 1936 de manière discutable bien sûr, et surtout 1968. Cinq révolutions certifiées. Venez après ça me dire qu'on aime les changements lents et pacifiques en France. Et dès qu'on veut changer quelque chose, les gens prennent la rue. Bon, c'est une forme de démocratie pas moins saine que la GroKo allemande, mais vous en conviendrez que l'idéal de la réforme n'est pas une tradition franco-française. Après, il y a toujours eu un juste milieu entre la France et l'Allemagne. Et non, je ne parle pas de la Belgique non plus. Et loin de moi, un quelconque soutien total à quelque gouvernement français que ce soit dans ces réformes. Mais
jamais.
Oui, je suis pour le changement, pour faire évoluer la politique au même rythme que la société. À nous tous de jauger la vitesse à laquelle change la société, mais j'ai bien l'impression que la jeunesse révolutionnaire n'est pas un concept qui est prêt de changer. Et puis, comme le disait Audiard, que ce soit la révolution ou la paella, rien de ce qui est espagnol n'est simple.
Merci Pierre. Citer l'Académie française pour parler de changement, il fallait oser. Et Pierre l'a fait. Et moi aussi, je fais ma rentrée et, comme d'habitude, j'ai toujours quelque chose à vous dire. Et oui, c'est la rentrée. Enfin, pas pour tout le monde. Hein. On pense bien sûr que les, je cite, « fainéants », les cyniques et les extrêmes, chers à notre président, n'ont pas repris le boulot, eux. Hein. Et ici même, combien de masterants sont encore à se dorer la pilule, alors que les pauvres agrégatifs ont repris le travail et ont déjà la mine défraîchie d'un beau jour de février. En cette rentrée, je me suis tout bonnement intéressé à un ministre en particulier, qui lui aussi fait sa première rentrée il y a peu. Et je veux bien sûr parler du ministre de l'Éducation nationale, monsieur Jean-Michel Blanquet, un homme de qualité selon... Je vous le donne en mille, Jacques Lang, son prédécesseur, rue de Grenelle. Homme de qualité, vraiment. Mais qui est ce vaillant Jean-Michel ? Jean-Mi. Jean-Mi, c'est le pote à Barouin, rencontré sur les bancs du collège Stanislas. Mais c'est surtout un professeur de droit public, ancien directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, puis recteur d'académie en Guyane, puis à Créteil. Il est surtout connu pour avoir été le directeur général de l'enseignement scolaire sous Luc Chatel et donc sous Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale. Alors je vais m'arrêter un peu là-dessus. Jean-Mich proposait en 2011 de repérer les élèves présentant, je cite, des risques pour les apprentissages dès la maternelle. Et une fois redevenu recteur dans l'académie de Créteil, c'est lui aussi qui avait expérimenté la cagnotte pour les élèves décrocheurs censés garder les décrocheurs à l'école avec une incitation financière. Voilà. Et après cette brillante carrière publique, hop, un petit passage dans le privé, puisqu'il devient non pas directeur de l'ESSEC, comme on peut le lire souvent, mais du groupe ESSEC. Du groupe ESSEC, donc une farandole de belles écoles de management. Et selon le Canard enchaîné, il aurait été invité par Sens Commun, le mouvement politique issu de la Manif pour tous, il aurait été invité donc par ce groupe pour participer à une table ronde en 2015 sur l'éducation à Marseille. Je ne sais pas pour vous, mais je meurs d'envie de savoir ce qu'ils s'y sont dit. Ça a l'air très très sympa dit comme ça. Jean-Michel affole...
Ils ont parlé de la pornographie en maternelle.
Je ne sais pas, mes sources ne vont pas aussi profondément, Marie. Donc Jean-Michel... merci. Jean-Michel affole la presse. Réac odieux pour les uns, technophile pragmatique pour les autres. On voit fleurir ça et là des titres comme « Conservateur 2.0 » chez Mediapart. Tout le monde semble fasciné par son intérêt, tout particulier pour les neurosciences appliquées à l'éducation. Et... petite pépite de cette semaine, une déclaration d'Elisabeth Lévy, reine des réacs chez Causeur. Je cite « Blanquet, c'est l'anti-Najat, et tant mieux ». Alors imaginez 30 secondes la même phrase, mais en appelant Blanquet par son prénom et Najat Vallaud-Belkacem par son nom de famille, ça donne pas du tout la même chose. Et toujours chez Causeur, notre cher ministre a donné sa première longue interview dans ce magazine en compagnie de Natacha Polony, grande prêtresse de l'antipédagogisme, et au passage celle que Nicolas Dupont-Aignan voulait voir ministre de l'Éducation nationale, donc c'est pour vous dire. Bref, la question que je me pose c'est quelle école pour Blanquet ? Le ministre déclarait au Figaro que, je cite, « l'éducation n'était ni de droite ni de gauche », et je crois qu'on sait tous ce que ça veut dire. Et c'est maintenant le moment que vous attendez tous, le grand retour du Manitou de la radio. J'ai nommé Rémi.
Bonsoir Mathias.
Le billet de Rémi dans tous politiques sur Transistor.
Dans tous politiques sur Transistor.
En raison d'un appel à la grève des organisations syndicales dans le cadre du mouvement social contre les ordonnances visant à mettre sur la paille nos services techniques, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes. Veuillez nous excuser pour cette gêne.
La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. À ce moment très précis, où tu m'as dit je vais partir. Et puis, tu es parti, j'ai cherché le repos. J'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr.
Ouais, bon, stop. Non, le lacrymo et les nasses, ok, mais là je craque, fin de la grève, tant pis. Non, de toute façon, c'est la grègue, hein. Pas le temps de faire grève. La Greg. Un peu comme Treblinka, sauf qu'à la fin, t'es pas sûr d'être pris. Ouais, non, oubliez-la, celle-là, peut-être. On la garde pas. Non, cela dit, ça aiguise ma curiosité, cette histoire de la Greg. Parce que, bah, par exemple, je vais enfin savoir ce que racontent ces mystérieux cercles d'agrégatifs qui rechargent leur perfusion de caféine, enfin ou de gardénal, on sait pas trop, à la pause, là, aux machines à café. Je m'imagine des conciliabules graves et beaux comme dans les films. C'est un truc... Bon, les gars, on vient de perdre deux hommes qui n'ont pas réchappé de cette colle sur l'industrie du pneu dans la philosophie présocratique. Je voudrais qu'on dédie cette minute à leur mémoire et puis à tous ceux qui sont morts de soif lors des inscriptions coriandre la semaine dernière. Bon... En parlant d'agrég, et puis peut-être pour revenir à la politique, hein, tous politiques, c'est le nom de l'émission. Oui, la politique d'Emmanuel Macron, je voudrais mentionner ici une très belle phrase de René Char, un programme de l'agrég de lettres. Merci Mathias pour la référence. Deux points, ouvrez les guillemets, avec des pincettes bien propres. Il existe une sorte d'homme toujours en avance sur ses excréments. Oui, je sais, le tube digestif monté à l'envers, on vous l'a déjà fait. Les relents poisseux de vieille France nageant dans sa pisse acide d'avoir assisté en direct au grand remplacement de la valeur travail par les sirènes de la fainéantise, vous avez déjà entendu. Mais quand même, Macron quoi. Enfin bon bref, comment s'y attendait ? Les mamies desséchées dont Manu avait réveillé les tréfonds nous disent désormais qu'elles sont déçues, figurez-vous. Mais pauvres connes, enfin pauvres cons qui y ont cru quoi, je vous plains. Élire un homme à ce point en avance sur ses excréments qu'il les oublie sur votre dignité. Ça vous apprendra à être rien, tiens. Remarquez, rien, ça a de l'avenir. Hein. Vous pourrez être promu balai de chiottes ou programmateur coriandre, on ne sait jamais. Bref, je m'énerve, je me remets en grève. Tiens, ça, Céline, on n'a qu'à finir sur un spot de la Fondation de France. Un ouragan terrible a frappé l'Elysée, faisant voler en éclats l'espoir illusoire dans lequel se drapait le petit Emmanuel pour avoir l'air d'être en train de sauver le pays. Sa cote de popularité est détruite à 60% et Manu n'a plus où se loger. Brigitte elle-même peine à retrouver toutes ses rides égarées dans le palais. Mais vous pouvez faire un geste. Si chacun d'entre vous donne 5 euros, nous pourrons redonner le sourire à notre roitelet en payant abondamment sa maquilleuse attitrée. 5 euros, c'est tout ce que ça vous coûtera. Si à 20 ans, vous n'êtes pas foutu de faire un geste pour le pays.
Ah, c'était la fin du billet de Rémi.
Ouais, désolé avec l'émotion, ça.
Merci beaucoup pour ce grand moment d'émotion et notamment tout particulièrement pour le passage sur Claude François dont on avait tous besoin, je crois. Et je signe maintenant la fin de ce premier numéro de la saison 2017-2018 de Tous Politiques. Et je l'espère très vivement que nous reviendrons vous parler vaillamment de politique.
Fais les valises, on rentre à Paris.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
Tonton, veille sur vous.
Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Et j'en tire les conclusions.
Au revoir.
Alors, en ce moment, on reprend son cours normal, mais on ne quitte pas tout à fait la politique, puisque nous ouvrons une séquence d'interview avec Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors, Alice devait être à tes côtés ce soir.
Oui, c'est souvent le cas.
Malheureusement, elle n'a pas pu venir. Et donc, la raison de ta venue ce soir, c'est l'organisation de ce qu'on a appelé la rentrée engagée du 13 septembre, qui aura lieu donc demain après-midi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça,
ouais.
Dans le jardin
tout à fait.
Descartes. Alors, première question un peu basique. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ?
Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une série de présentations, discussions, apéros, projections. Le but, c'est... on va dire qu'il est triple. C'est pour les assos de se présenter, c'est pour les assos de se rencontrer, et c'est surtout pour accueillir toutes les personnes qui viendraient à l'ENS ou qui seraient déjà, qui n'auraient pas rencontré ces personnes-là, parce qu'on n'a pas des services de communication, enfin... dans toutes les assos en fait, dans certaines si, mais dans celles qui n'ont pas de bons services de communication, voilà, de rencontrer, de faire un peu parler d'elles et peut-être de recruter, même si ce mot est terrible.
Et est-ce que tu peux les citer, ces associations ?
Alors ouais, donc il y a Arc-en-Ciel, ENS sans lutte, Envers, Pollens, Itinérance, Terre d'ancrage, Les Salopettes, est-ce que j'en oublie ? Je crois pas, je crois que c'est ça.
D'accord, oui, bah, je te crois sur parole. Et il y a quand même une sorte de dénominateur commun entre ces associations.
Il y a le fait que c'est engagé tout le long de la rentrée, mais après ça va de avoir un composteur à être Black Bloc en manif, donc c'est quand même une palette assez large, en passant par cours de français bénévole, voilà, pour sans papier. Donc c'est une très large palette. Il y a beaucoup de personnes qui voilà qui ont croisé les associations, et du coup il y a voilà, il y a clairement des axes, disons, de convergence, on aime bien ce mot. Voilà, autour des thèmes de politique, d'actualité, d'engagement pour l'écologie, les sans-papiers, la loi contre la loi travail, ce genre de choses, qui sont assez partagées quand même entre ces associations. Mais d'ailleurs, la plupart sont nées dans les deux dernières années, en fait, qui a l'essentiel, je crois.
Oui, d'accord, parce que là, c'est la première fois que vous faites ce genre d'événement trans, ouais, associatif. Et la question que je me pose, c'est... pourquoi la nécessité d'organiser ce genre d'événement alors que d'autres associations se contentent des stands de rentrée, d'une communication autre, et n'ont pas forcément le besoin de se fédérer pour un événement et de se réunir?
Parce que c'est intéressant de rassembler toutes les assos engagées pour voir ce qui peut naître des croisements possibles. On va organiser par exemple 4 foyers de discussion qui vont être un peu à l'intersection de plusieurs luttes. Donc voir que voilà, il va y avoir des personnes de différentes assos qui vont se retrouver dans les mêmes conversations, qui vont essayer de les nourrir, de les entretenir, puis surtout que voilà, qui vont essayer d'intéresser d'autres personnes à ça. Et puis voilà, c'est aussi venu du fait que il y a eu pas mal, enfin les quelques actions qui ont été faites l'an dernier dans chacune de ces assos, employer des personnes qui étaient aussi dans d'autres de ces assos en fait. Donc il y a déjà pas mal de trucs qui ont été faits, donc on voulait un petit peu marquer ça, quoi, officialiser ça. Dans une rentrée.
Et donc là, donc je rentre un peu dans le vif. Est-ce qu'il s'agit aussi un peu de repolitiser cette école ?
Ouais.
Ou de juste de la politiser peut-être ?
Ça même pas trop. Ouais, je sais pas. Oui, non, mais de la politiser, ça c'est un vieux souhait. Ça, on avait déjà essayé de le faire la première année où du coup moi j'y étais, Rémi aussi. On avait créé pas mal d'assos assez explicitement politiques. Il y avait Itinérance qui au départ était quand même vraiment, pas qu'il est toujours, hein, mais qui est vraiment une asso militante. Il y a eu ENS en lutte qui s'est montée dans la lignée des Nuits Debout. Donc il y avait une volonté quand même. Mais au départ, c'était pas tant créer la politisation à l'école que faire se rencontrer les personnes déjà politisées. Alors après, il y a eu ensuite des débats qui ont été organisés, des rencontres, etc. Et ça tient à cœur. Mais il y a aussi l'idée de faire se rencontrer les personnes aussi qui sont déjà intéressés en fait et qui n'ont pas encore de structure dans lesquelles s'engager, quoi.
Et donc du coup, l'idée c'est quand même d'ancrer un peu plus l'école dans des problématiques contemporaines, et notamment aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu une grande manifestation.
Mais alors l'école avec un grand E, pas tant que ça en fait, parce que par exemple Terre d'ancrage tourne beaucoup autour de l'ENS, mais c'est pas une asso de l'ENS. itinérance. Le but, c'est de... Donc, effectivement, les locaux sont à l'ENS, mais c'est destiné à des gens qui ne sont pas de l'ENS. ENS en lutte, et c'est le plus possible de s'attaquer à des trucs qui sont extra-ENS. Donc, c'est pas tant dirigé vers l'école que... Enfin, l'école n'est pas forcément une cible.
Oui,
il n'y a pas d'intérêt, en fait,
d'ouvrir l'école à d'autres problématiques qui ne sont pas forcément visibles, a priori, par les gens qui y sont.
Ouais, mais c'est juste que la formulation est...
Oui.
La formulation pourrait poser problème à certaines personnes. Bon, c'est pour taquiner, hein, mais il y a une direction qui est quand même assez désireuse de créer une activité politique et culturelle, mais politique et culturelle. Dans l'école en même temps, et qui d'ailleurs est sans doute très 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 intéressée du fait que cette rentrée se fait. Y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas trop envie de jouer ce jeu institutionnel aussi, donc il y a cette ambiguïté, quoi.
Et du coup, est-ce que vous avez déjà des échos de la réception de cet événement, ou est-ce que vous attendez vraiment le jour J pour voir à peu près ce qui se passera en termes de...
Alors, moi, je sais rien du tout, mais je n'ai vraiment aucune idée de comment ça va réagir. Il y a eu un grand bingo de rentrée qui a été distribué au moment des premières réunions, des premières conférences des primo-arrivants, qui a, paraît-il, connu un très grand succès. Mais on n'en sait pas plus, donc peut-être qu'il n'y aura personne et qu'on sera juste en train d'initier. Et puis on espère quand même qu'il y aura quand même pas mal de nouveaux, quoi.
Et au niveau de directionnel de l'école, des réactions, des commentaires?
Aucun, non. Non, non. Ils ont d'autres chats à fouetter. Il y a les 30 ans quand même, faut pas déconner.
Oui, voilà, il y a les fameux 30 ans avec la grande soirée des 30 ans demain. Non, jeudi soir, à 20h. Et en fait, dans l'idée, c'est de mener sur quel type d'action ? Parce que du coup, là, c'est l'événement de rentrée, mais on imagine que ça va se perdurer quand même.
Alors moi, je peux parler que des assos dans lesquels j'ai encore un pied, parce que j'avais donné des cours à itinérance, mais je ne suis pas du tout dans la direction, je ne peux pas en parler. Terre d'ancrage, j'ai rendu des services, mais je ne suis pas dans la direction, je ne peux pas en parler. Je peux parler de NS en lutte. Voilà, je suis désolé.
Je le rappelle, qui n'est pas une association.
Qui n'est pas une association. Il n'y a pas de projet, il y a quelques idées, mais le but, c'est justement de voir avec les gens qui seront là, quoi, parce qu'on ne va pas justement imposer des trucs du style « bah, cette année, on fait ça et on a un plan quinquennal ». Donc voilà, on a quelques axes, et puis de toute façon là, l'actualité nous en fournit un de taille, on va dire. Donc y a mille trucs à faire, quoi. Et parmi les mille, non, il y avait toute une idée de créer éventuellement une intersyndicale à l'ENS. Il y a toutes les questions de mobilisation à l'intérieur de l'école. Bon, là, il y a un truc qui est extrêmement ponctuel et de petite taille, mais très interne à l'école, qui est que la bibliothèque ferme pendant une heure et que ça arrange personne, pas même les personnes qui y travaillent. Il y a toutes les questions des conditions de travail à l'ENS, qui sont un énorme problème sur lequel il faudrait vraiment enquêter, parce que c'est vraiment dramatique. Il y a toute l'organisation des manifs, de mouvements anti-loi travail, d'information, d'éducation populaire, pourquoi pas. Voilà, puis d'aide aussi, de fournir une main-d'œuvre et un appui concret à toutes les associations qui en ont besoin. Quoi. Terre d'ancrage a souvent besoin de main-d'œuvre. Enfin, de main-d'œuvre. D'aide, quoi. Que ce soit pour accueillir des gens, pour faire des maraudes, ce genre de choses. Donc, voilà, tout ce genre de choses.
Et donc, l'idée, c'est de toujours garder la spécificité de chaque association et de pas forcément de se fédérer.
Non, c'est pas un IDEX. Mais non.
Le mot a été lancé.
non, le but, c'est vraiment.
Je suis encore là.
C'est un peu officialisé, un peu entériné le fait qu'il y a une proximité du fait d'un engagement politique qui est souvent partagé entre ces diverses organisations.
Mais qui ont des activités parfois radicalement différentes.
Ouais, tout à fait. Anvers, par exemple, ne va pas manifester au nom d'Anvers, quoi. Enfin, bon, c'est assez évident. Mais il y a quand même, voilà, le fait de favoriser les AMAP, etc. C'est quand même souvent assez compatible avec le fait d'être contre la loi travail. Il se trouve. C'est pas systématique, pas du tout. Mais il y a quand même des axes. Et voilà, c'est pour l'exemple le plus extrême, quoi. Il y en a qui sont quand même vachement plus évidents, comme lien. Donc c'est... Voilà. Mais après, c'est complètement à la carte et c'est pas du tout... Il n'y a pas un comité d'organisation qui va régenter toutes ces associations et imposer une ligne directive. Pas du tout. C'est vraiment juste que... Voilà, il s'est vraiment trouvé qu'il y avait vraiment des personnes qui étaient dans toutes ces associations, puis qui pensaient un petit peu les mêmes choses, qui se retrouvaient sur beaucoup de choses. Et puis, bon voilà, on a eu envie de le marquer, quoi.
Alors si vous avez envie d'avoir une rentrée engagée, pas seulement une rentrée festive ou culturelle, eh bien vous pouvez aller, donc tu peux rappeler
les horaires précis. C'est demain à partir de 16h, 16h30 dans les jardins, ça durera pour la version exhaustive jusqu'à 23h30. Normalement, donc il y aura une projection de film, des organisations de discussion, des présentations de toutes les assos. Et puis, c'est un apéro participatif aussi, donc il serait intéressant que chacun rapporte quelque chose. Voilà.
Très bien, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Et
on ne parle pas des manifs.
Non, c'est pas grave. Bah écoute, qu'as-tu à dire sur les manifs?
Non, mais c'est juste que j'y étais, je me demandais s'il y avait des questions dessus ou pas, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, donc je crois que tout a été dit.
Très bien, je te remercie beaucoup, Pierre. Et maintenant, on reprend le fil du en ce moment avec une partie un peu moins sérieuse, un peu moins politique. Et pour cela, je me tourne vers Baptiste qui fait son grand retour à Transistor avec un éphéméride. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. Transistor Web. Bonsoir à tous, alors je suis ravi de retrouver le micro de Transistor en cette belle journée. Bon, j'avais écrit le script à l'avance, c'est pas si beau que ça. Enfin, il fait beau mais il fait froid, enfin bref. Du 12 septembre. Ah, septembre, le mois mal aimé, voire maudit, puisqu'il annonce la rentrée scolaire, la fin du beau temps, mais également d'autres malheurs insoupçonnés. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, par exemple, dans la religion catholique, le mois de septembre est dédié à Notre-Dame des douleurs. Je sais pas, ils auraient au moins pu faire semblant et la dédier à Notre-Dame des bonheurs, Notre-Dame des vidéos de chatons sur Internet, Notre-Dame de la sensation indescriptible que l'on a lorsqu'on enlève des chaussettes trop serrées que l'on gratouille la marque qu'elles nous ont laissée. Retenez, chers auditeurs, si je lance une religion, elle sera basée sur la Sainte Trinité, Kim Kardashian, Nicki Minaj et Claire Chazal, puissent leur nom être sanctifié, et sur le bonheur au lieu des malheurs. D'ailleurs, je suis à la recherche de fidèles, donc si vous voulez rejoindre la Sainte Parole de Nicki Minaj, laissez-moi un CV et je vous contacterai après le direct. Si votre CV est bon, vous pourrez même prétendre au poste de twerk cardinal ou de Britney Evangeline. Non, Britney Evangeline, je ne sais plus parler. Le nombre de places reste limité. Enfin bref, je m'égare. Revenons au doux mois de septembre. En faisant mes petites recherches sur Wikipédia pour cette éphéméride, j'ai aussi appris que septembre était un jour fort apprécié des sciences occultes, puisque les sorcières pourraient acquérir de très forts pouvoirs le jour de l'équinoxe. Donc, si votre vieille prof aux cheveux gris connaît un regain de vitalité après le 22, je vous conseille de contacter au plus vite Minerva McGonagall. Pour accéder à son bureau, il faut crier trois fois « coriandre, méandre » devant un bureau de l'administration. C'est cadeau. D'ailleurs, le mois de septembre a également quelques dictons qui lui sont associés. Je pense notamment au fameux « en septembre, ne te découvre pas d'un gendre ». Ce proverbe étant particulièrement apprécié si votre gendre vient de gagner à l'euro-million. Mais il existe d'autres dictons et proverbes beaucoup plus véridiques et moins connus, tels que « septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines ». En plus de ratisser extrêmement large niveau météo, ce dicton prend une signification toute particulière si vous passez par Mono et sa magnifique fontaine qui risque de se tarir ce mois-ci. Mais bon, on est sur Transistor, donc la plupart d'entre vous doit être littéraire et considérer Mono comme Paris considère la province. Enfin bref, autre dicton, le coq en septembre chantant la matinée annonce une abondante rosée. Ce dicton vous permet de savoir s'il y aura du rosé dans le cocktail du BDE de jeudi, en festive à Descartes. Voilà, comme ça vous êtes aussi contents les littéraires. Enfin, revenons à nos moutons, l'éphéméride du 12 septembre. Eh bien, nous fêterons les Apollinaires, les Alibes et les Juvénales. Juvénaux. Juvénals. Bon, j'avoue, je ne connais pas le pluriel de Juvénal, vous m'en excuserez. D'ailleurs, cœur sur vous si vous portez un de ces prénoms, ma foi, plutôt originaux. Je sais, vous allez me dire, mais Baptiste, Apollinaire, c'est pas si original que ça, il y a un écrivain français qui s'appelait comme ça. Nigna, je suis scientifique, je ne sais pas lire la poésie. Et puis, le bougre a quand même écrit un ouvrage qui s'appelle « Les 11 000 verges ». Alors j'ose espérer que Nicki Minaj sera au programme du bac de français au siècle prochain. J'imagine déjà l'épreuve. Décrivez les sentiments de Nicki Minaj dans son œuvre Anaconda lorsqu'elle y écrit 2. Il me dit qu'il n'y a que de ça de vrai, qu'il aime mon sexe à pile, qu'il déteste les maigrelettes, qu'il a besoin d'avoir quelque chose à tâter, alors je le fais monter dans ma jaguar et je me mets en mode cochonne, genre dune, dédé, dune. Vous avez 4 heures. Le 12 septembre, c'est aussi le jour de l'anniversaire de ma maman, bon anniversaire, de Hans Zimmer, de Mylène Farmer, de Michel Drucker et de François Ier. D'ailleurs, je suis sûr qu'ils organiseraient une fête tous ensemble, ce serait fort sympathique. Vous vous imaginez fredonner « Je suis libertine » sur la musique de fond d'Interstellar tout en discutant avec Michel Drucker et François Ier de l'évolution du Royaume de France ? Riche soirée en perspective autour d'un bûcher vegan. Je sais qu'un éphéméride est censé donner les minutes de soleil en plus ou en moins, mais je sais aussi que la plupart des gens n'en ont rien à faire, donc si vous voulez les connaître, je vous conseille d'écouter Evelyne Delia ce soir avant le 20h. Et si j'ai bien compris les vidéos des salopettes et d'arc-en-ciel, je n'ai pas le droit de vous parler de l'état de la Lune sans votre consentement. Alors je vous fais de gros bisous sur la truffe et je vous retrouve tout à l'heure pour parler d'un sujet mystérieux et révolutionnaire pendant le journal radiophonique amplifié. Hashtag suspense, hashtag teasing, hashtag oh là là.
Merci beaucoup Baptiste et pas besoin d'Evelyne Delia puisque nous avons notre propre météo ici à Transistor et c'est Anna qui reprend le flambeau de notre chère Aurore qui est partie s'exiler à Madrid.
Merci beaucoup. Alors bonjour mesdames et messieurs, place au moment du direct que vous attendiez tous, le moment phare, le moment clé, la météo. Alors, aujourd'hui à Lyon, il fait bon, beau et frisqué, et le soleil brille de mille feux, faut se l'imaginer. Il est 18h, il fait 18 degrés, et que demander de plus ? Mais demain, le froid, tout droit venu des contrées sibériennes, revient. Et les nuages vont s'emparer des cieux. Mais comme le disait Baudelaire, nuages, nuages qui passent là-bas, ces merveilleux nuages, donc aimons les nuages. Pour les 30 ans de l'ENS, vraiment, tout a été prévu par la météo. Donc, beaucoup d'activités sont prévues en extérieur. Il va pleuvoir toute la journée, non-stop, de 10h jusqu'à 22h. Donc, avec un taux d'humidité de 64% et 90% de précipitations. Et du vent à 19 km/h. Donc, prévoyez le parapluie dès 10h. Et dès 23h, vous pourrez vous réfugier en festif, pile au moment où il n'y aura plus de pluie. Dans l'endroit le plus aéré et frais de toute l'ENS. Donc, si vous voulez par contre fuir ce mauvais temps, partez à Paris. Bon, le seul jour où il ne pleuvra pas, ça va être le jour des 30 ans de l'ENS. Le reste du temps, il pleut tout le temps. Donc ne vous inquiétez pas, le temps est encore plus déprimant qu'ici. Par ailleurs, chez nos voisins à Saint-Étienne, les températures sont encore plus froides et il va pleuvoir même le dimanche. Alors qu'ici, ce week-end, le temps sera ensoleillé et il fera très chaud entre 19 et 21 degrés. Donc pile pour les journées du patrimoine, restez dans les musées. Pour le Y, situé dans un périphérique de 2 à 3 heures de route à partir de Lyon, selon la direction choisie par le BDE, le temps risque d'être très différent. Froid et pluie vers le nord-est, froid vers le nord-ouest, pluie, température automnale vers le sud-est et vent fort vers le sud-ouest. Préparez vos maillots de bain et de l'alcool pour oublier le froid et la pluie ou restez au Bercail pour ne prendre aucun risque. Pour finir par la métropole, à Connette-sur-le-Quai à Aude, le risque de précipitation sera nul pendant toute la semaine. Les températures monteront jusqu'à 27 degrés dès demain. Un endroit pittoresque à garder à l'esprit pour déguster un apérol spritz sur la terrasse du bar local.
Merci beaucoup Anna pour cette météo qui nous a ragaillardis. Et maintenant, nous allons passer du temps qui fait à la belle voix de Céline qui nous revient en cette rentrée pour un nouveau numéro de Sidetracks.
Bonjour Mathias, bonjour à tous.
Transistor
Web. Mardi 12 septembre, 18h-20h, Transistor fait sa rentrée.
Un pour l'argent. 2 pour le spectacle, 3 pour le game.
Classe, man, top of the pop. C'est du journalisme total.
Du rhum, du jazz et un gros voyage jusqu'au fin fond des boîtes de striptease à Brooklyn, Sidetracks n'avait vraiment pas envie de la jouer sérieux pour sa deuxième saison et s'est trouvé donc le partenaire idéal pour ouvrir l'année. C'est sur la musique du groupe The Rum Runners qu'on entame cette nouvelle saison, festive, riche d'humour et de métissage.
Mmh.
Les Rum Runners, ce sont des artistes français originaires de Toulouse et de Tours, pour qui la musique est un peu comme la contrebande. Elle se dérobe, se vit et se savoure dans un frisson d'adrénaline. Elle se danse, un verre à la main et un sourire séducteur aux lèvres. Les 13 titres de leur dernier album Cake the Gang construisent chacun l'arrière-plan sonore d'un film où l'éclectisme règne en maître, à l'image du titre Contrabandist Inventory. Imaginez-vous un corsaire à la voix de speaker qui détaille sa prise de guerre quelque part dans les Caraïbes. Two switchblades, a Dominican Republic machete, gold-colored stiletto knife, snakeskin leather bags, crocodile wallets, Jamaican mango leaves, lorazepam, bitter melons, purple mombins, counterfeit money orders, The Simpsons nesting dolls, ginkgo nuts in clear plastic bag, raw fennel nuts, prohibited no access to Versuoso from Peru, and 13 bottles of overproof Jamaican rum. Les Rum Runners font ainsi revivre un genre de musique américaine bien particulier, non pas la country qui regarde à l'intérieur des terres pour célébrer l'âme profonde de la nation américaine, mais l'exotica, ce genre un peu oublié des années 50 qui mêlait des cultures venues d'Océanie, de Polynésie, d'Afrique, des Andes ou encore d'Asie du Sud-Est. Il a été popularisé pour la première fois par le musicien Martin Denny qui définit l'exotica en ces termes. L'association entre le Pacifique Sud et l'Orient, la représentation que beaucoup de personnes se faisaient des îles. Il y va donc de nos fantasmes et de notre imaginaire dans cet album à l'énergie débordante, un brin vintage, dans des compositions à majorité instrumentale. Et parfois, un titre vénéneux nous fait de l'œil, là encore, comme pour assouvir nos fantasmes. Alors bien sûr, il y en aura peut-être pour trouver tout cela un petit peu folklorique. La panoplie des riffs 60s de guitare, les saxophones et les trompettes impromptues, les lignes de piano et de contrebasse qui surgissent au détour d'un morceau. Mais ça marche, le groupe poussant parfois même la fantaisie jusqu'à aller s'aventurer du côté des mélodies yiddish, puis japonaises. Et enfin, chez un certain Ennio Morricone, dans Panzer Goes West. L'album Kick the Gang et ses 13 titres entraînants est sans doute l'opus le plus réjouissant de cet été et de cette rentrée. L'alliance d'humour et d'influence jazzy, rock'n'roll complètement décalé. Des inspirations sans pastiche, car le groupe parvient toujours à surprendre et à enchanter. Dépêchez-vous donc d'embarquer et de profiter des escales virtuoses que vous offrent les Rum Runners. Chop chop, comme on dit en anglais. L'album Kick the Gang est sorti en juillet dernier sur le label Doghouse and Bone Record. Quant au groupe, qui a été de passage à l'ENS il y a maintenant 8 ans de cela, il est en tournée dans toute la France et en Europe dans les prochains mois. Vous retrouverez toutes ces informations sur la page de l'émission sur transistor.fr. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook. Et si l'envie vous prend cette année d'aller voir des concerts, de défendre le dernier album de vos artistes favoris ou bien de rencontrer des disquaires lyonnais, n'hésitez pas à rejoindre Sidetracks qui recrute. En attendant, passez une très belle semaine à l'écoute de Transistor et tout de suite à l'écoute de Clément et de sa chronique ferroviaire.
C'était Sidetracks, présenté par Céline. Après avoir voyagé en musique, voyageons en train.
de ces tristes matins qui sifflent dans le soir.
Chers passagères, chers passagers, bienvenue dans cette chronique ferroviaire tardo-estivale pour un voyage que je vous propose d'actualité. C'est la rentrée à l'ENS, des activités, des soirées, bientôt un week-end d'intégration, et surtout, j'espère, pour le plus d'entre vous possible, de la chope consentie et voulue, bien évidemment. Du coup, j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui, de ce truc qui peut vous arriver en train, comme cible ou comme acteur. Parce que oui, quoi de plus romantique que le train ? Une silhouette gracieuse et aérodynamique, surtout si vous prenez le TGV, des fauteuils, des paysages magiques et majestueux qui défilent sous vos yeux ébahis à des vitesses folles. Quoi de plus romantique alors comme cadre pour faire connaissance avec votre voisin d'à côté, faire du pied à ce charmant garçon juste en face de vous, ou même oser un clin d'œil coquin à celui que vous apercevez en face dans l'allée. Ça peut être très excitant un TGV après tout. Mais revenons à nos passages à niveau, on n'est pas encore à l'entrée du tunnel. Il faut d'abord établir le contact, discuter, séduire. Et comme je suis généreux, je vais vous faire profiter de mon expérience en la matière. Oui, j'étais à la Part-Dieu pour aller, comme souvent, à Paris au mois d'août. Je m'assois à ma place réservée à l'étage du TGV, place-fenêtre, parce que j'ai mes petites habitudes. Et là, mon Dieu, mais qui est cet inconnu qui s'assoit à côté de moi ? Alors là, vous n'imaginez pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu la tête qui tournait, mes mains sont devenues moins tremblantes et tout un tas d'autres choses que je n'ose pas vous détailler se sont produites en moi. Pas de doute, je suis tombé amoureux de cet inconnu qui s'était assis à côté de moi. Je ne vois pas d'autres explications. Alors je suis dans le TGV à attendre le départ et mon âme sœur, celle qui m'est destinée depuis des années peut-être, est là, à côté de moi. D'ailleurs, je vois bien les petits regards qu'il me lance en faisant semblant de regarder le quai parce que je suis à la fenêtre, je vous le rappelle. Aucun doute, la révélation est la même de son côté. J'ai donc précisément 1h57 pour déclencher l'apocalypse sentimentale.
Madame, monsieur, bonjour. Vous avez bien pris place à bord du TGV numéro 6633 à destination de Paris-Gare de Lyon. Ce train desservira la gare du Creusot TGV et son terminus Paris-Gare de Lyon. Vous avez fait l'objet d'un contrôle à l'embarquement. Nous pourrons être amenés à contrôler vos cartes de réduction. Mesdames, messieurs, je vous souhaite un bon voyage.
Bon, ça y est, là, le train est parti. Mon inconnu regarde son téléphone. On va discrètement... Oh, un anglais. Bon, c'est pas grave, ça nous permettra de voyager. J'ai déjà hâte de rencontrer sa famille. Oh, je me demande s'il vient de Londres. On pourrait même y aller en Eurostar s'il vient de Londres. On se calme. Faut que j'essaie d'exploiter ça. Ouais, je vais lui demander un renseignement et s'il me répond avec un accent ou carrément en anglais, je vais pouvoir embrayer là-dessus. C'est bon, ça. Excusez-moi.
Madame, monsieur, bonjour. Nous vous rappelons que pour agrémenter votre voyage, un bar se tient à votre disposition en voiture 4. Venez découvrir notre sélection de gourmandises, thé Kusumi et café Illy, ainsi que nos menus conçus par le chef Michel Saran. Nous vous informons que des tickets de métro parisien sont également proposés à la vente. J'ai le plaisir de vous souhaiter un bon voyage.
Bon, alors merci, mais où j'en étais moi... Ah oui, jouer sur son accent. Non, mais pas tes écouteurs. Oh, bon, qu'est-ce qu'il écoute ? Ah ouais... Je sais, je connais pas du tout. Bon, je vais...
Madame, monsieur, notre train est actuellement arrêté en pleine voie. Pour votre sécurité, ne pas tenter d'ouvrir les portes. Je vous rappelle que la descente s'effectue uniquement arrêtée et à quai.
Oui, moi ça va, on s'est arrêté. Ça veut dire qu'on va être en retard. Parfait, ça me laisse plus de temps. Excusez-moi.
Madame, monsieur, Madame, monsieur, suite à un incident technique, nous roulons actuellement avec un retard de 15 minutes. Les passagers ayant une correspondance sont priés de se faire connaître aux agents de bord. La SNCF s'excuse pour ce retard et vous souhaite un bon voyage.
Non mais ça finit, c'est bon la SNCF, vous avez fini de m'interrompre là ? Je tente d'établir le contact avec mon âme sœur et... Oh là, nos regards viennent de se croiser. Et il vient de me sourire. Bon, là c'est l'occasion parfaite. Et
bonjour monsieur, contrôle des titres de transport s'il vous plaît.
Oh, mais ça ne finira donc jamais. Bon, au moins j'ai vu son nom sur son billet. Je vais pouvoir discrètement aller voir sur Facebook qui c'est. Ah, dans ses mentions j'aime. Il s'intéresse aux gender studies. Mais c'est l'homme de ma vie là, ça fait plus aucun doute. Et oh non, je rêve. Non mais je rigole pas, il est en train de me faire du pied. Oh là là, mais si, il me fait du pied. Bon, là, à l'attaque. J'y vais cash.
Madame, monsieur, votre hôtesse de bar vous rappelle qu'un bar est à votre disposition en voiture 4. Les passagers IDTGV peuvent y réserver un taxi qui les attendra à leur arrivée à Paris.
Mais bordel ! Bordel de bip ! Mais vous emmerdez avec vos annonces là ! Vous voyez pas que je suis occupé à des choses sérieuses ?
Alors je sais ce que vous vous dites. Non, évidemment, je ne me suis pas mis à hurler à destination de ce haut-parleur intempestif. Même si je dois avouer que je l'ai traité à peu près tous les noms, un peu comme cet hélicoptère qui passe au-dessus de la voie. Parce que, quand même, entre nous, la SNCF est vraiment très forte à ce niveau-là. Des annonces, surtout dans ces trains de haut standing que sont les TGV, on en a tout le temps. Tu commences à somnoler, paf, la voiture barre. Tu commences à bouquiner, paf, un arrêt sur la voie. Avec toujours cette infantilisation complète. On te rappelle qu'il ne faut pas ouvrir les portes tant qu'on n'est pas à quai. On te martèle que tu peux et donc que tu dois venir consommer la salade dégueu de Michel Sarran à la voiture bar. Et je vous ai épargné le très fameux « Attention à l'espace entre le marchepied et le quai !» Alors je sais bien que la SNCF fait ça pour se couvrir, elle n'est pas la seule, la RATP le fait aussi. Mais dans un billet sur le sujet, Gilles Fumet, du blog Géographie en mouvement, nous rappelle à quel point cette logorée verbale assomme tous ces espaces publics merveilleux que sont les trains d'un bruit bien intempestif. Ah, mais on me dit dans l'oreillette que ce qui vaut pour le TGV ne vaut pas pour tous les trains. Bah oui, le TGV, c'est un train qui est cher, donc on chouchoute un petit peu les clients, surtout si on veut qu'ils consomment. Par contre, est-ce que vous avez déjà pris un Transilien pour aller en banlieue parisienne depuis Saint-Lazare ? Pas de voiture bar, des gens qui vont ou viennent de banlieue, bon, pas des consommateurs, des pauvres, pas besoin de les chouchouter, hein. Donc pas d'annonce ou presque dans ces trains-là, à part avec une voix automatique qui t'annonce les stations. On y voyage peut-être pas plus mal en fait, enfin bon, en dehors des heures de pointe, parce que bon, vous connaissez, comme moi, les conditions de transport dans ces trains. En fait, le nombre d'annonces sonores que tu subis est proportionnel au prix de ton billet. Fallait bien qu'il y ait au moins un des avantages à pouvoir se payer un billet de TGV, et c'est peut-être une forme de justice sociale bien particulière au service client de la SNCF. Bon, et vous vous demandez peut-être si j'ai réussi à choper mon anglais, moi, dans mon TGV. Ben non, parce qu'avec tout ça, le train a eu le temps d'arriver au Creusot, l'arrêt intermédiaire entre Paris et Lyon, et il est descendu là, variable que je n'avais pas envisagée. Quelle idée de descendre au Creusot, franchement. Et avec toutes les annonces que j'ai dû subir entre le Creusot et Paris, je n'ai même pas pu me morfondre tranquille. Et comme j'avais faim, bah, je me suis résigné à aller acheter la salade dégueulasse étoilée à la voiture bar. Je préférais vraiment cette époque où à la place des annonces, on entendait siffler les trains.
Mais j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir.
Merci Clément pour cette chronique ferroviaire et c'est maintenant la fin de cette heure de
En ce moment et je laisse tout de suite la parole à Rémi pour votre émission de cinéma préférée d'étoiles plein les yeux.
Oui, bonsoir Mathias et désolé pour l'effet SNCF qui était resté sur ta voix.